Des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous? C'est Clotilde Seille en votre compagnie, une fois encore en direct du studio de Canal M, la radio de Vues et Voix, pour vous présenter des livres plein les oreilles. Et encore une fois, cette semaine, beaucoup de titres, beaucoup d'auteurs dont il sera question et des invités que vous aimez. On va commencer par Gérald Cousineau, qu'on va retrouver dans quelques secondes. Gérald, qui va nous parler d'un livre de Martin Winkler qu'il aime particulièrement. Aujourd'hui également à l'émission, Jocelyne Alary, vous savez, cette bénévole, une femme qui a le cœur sur la main, qui vient de Granby au moins deux fois par semaine pour enregistrer des livres. Et puis, il y aura la chronique de Gérard Saint-Denis. Nous évoquerons la disparition de Leonard Cohen. Et il y aura des rubriques aussi que vous connaissez bien, comme la bande-annonce de la semaine prochaine. Je peux déjà vous dire que Catherine Perrin sera des nôtres. Il y aura des titres en rafale à la toute fin de l'émission. Et je salue la présence à l'émission, parce qu'elle est déjà en studio avec moi, de Madame Jeannette Bertrand. Bonjour. Bonjour Jeannette.
Bonjour Clotilde.
Et merci beaucoup d'être là.
Ça me fait plaisir.
Alors si vous le voulez bien Jeannette, comme on le fait à chaque semaine en début d'émission, nous allons retrouver une personne qui est non-voyante. Aujourd'hui c'est Gérald Cousineau qui va nous parler d'un livre. Il est déjà en principe en ligne. Gérald.
Oui, bonjour Clotilde, bonjour Madame Bertrand.
Bonjour.
Ça va bien Gérald, la vie est bonne?
Pas mal,
dit-il.
Vive la retraite.
Genre là, il y en a une qui regarde puis qui me fait « pas sûr moi ». S'il y en a une qui n'aime pas ce mot-là, c'est bien Jeannette.
Moi, je l'aime beaucoup.
Vous avez le droit.
Bon, Gérald, lecteur, grand lecteur parmi l'éternel, et Dieu sait si ça vous rapproche beaucoup de Jeannette Bertrand, de quel livre aviez-vous envie de nous parler cette semaine?
Alors cette semaine, je vous parle d'Abraham et fils, un roman de... Moi, je le prononce à la française.
À la française,
Martin,
hein?
Martin Winkler ou Winkler.
Ouais.
C'est un pseudonyme, bien sûr. Son vrai nom, c'est Marc Zafran.
Ouais.
C'est un monsieur qui est né en Algérie en 1955.
Oula, j'avais rien, je ne sais pas pourquoi j'ai anglicé, je ne sais pas, j'ai regardé, oubliez ça. Hein?
Alors, c'est un médecin français, bon. Parce qu'il vit en France depuis un certain temps.
Oui.
Donc, un médecin français, et c'est également un romancier, un essayiste, un traducteur. Et on dit même aussi qu'il est critique à l'occasion des séries télévisées. Bon, alors c'est comme ça.
Hein?
Et c'est un monsieur qui parle beaucoup de médecine, entre autres dans le roman dont je parlais aujourd'hui, mais dans d'autres livres, il parle également de médecine. Donc, ce monsieur, pseudonyme Martin Winkler, Abraham et fils, publié cette année, c'est une brique, près de 600 pages, un peu plus de 12 heures d'écoute.
Ça a été lu vite, ça. 12 heures pour 600 pages, mon Dieu, ça a été lu.
Effectivement. C'est quand même une brique.
Oui.
Donc, c'est quoi? Nous avons un médecin qui s'appelle Abraham Farka. Il est veuf, il est rapatrié d'Algérie, et avec son fils France, de 9 ans à ce moment-là, il s'installe dans une petite ville de France qui s'appelle Tillier, qui est peut-être en réalité Pithiviers. Je ne connais pas très bien ce coin-là. On parle de Beauce ou du Loiret, là, dans ces endroits-là. Là. Donc, il s'installe là dans une grande maison. Et évidemment, la maison est très importante dans ce récit. Donc, il s'installe là. Et c'est quoi ce roman, finalement? C'est la chronique familiale. Enfin, familiale, ils sont pas très nombreux. Ils sont deux, le père et le fils.
Oui.
Mais un peu plus tard, vont se joindre à eux une femme et sa fille. Donc, ils seront quatre dans cette maison-là. Donc, c'est la chronique familiale de ces deux-là, le père et le fils. En 1963 et en 1964, alors on est en France, c'est Charles de Gaulle qui est au pouvoir, la guerre d'Algérie vient de prendre fin.
En 62, hein?
Voilà,
c'est
et on apprend tout de suite que le fils, Franz, donc 9 ans, est amnésique, parce qu'un an plus tôt, il a été victime d'un accident. Mais l'accident n'en est pas un. Ça, on le saura seulement à la fin du livre, parce que ça s'est passé en Algérie.
Faut pas le dire, Gérald.
Ah, d'accord. Alors, pas un mot. Personne ne m'a entendu, alors.
D'accord.
Donc, c'est la chronique familiale. Mais la narration est assez curieuse au départ, parce qu'on se rend compte que, finalement, il y a trois protagonistes. Le père, Abraham, le fils, Franz, et la maison. Et c'est la maison qui raconte parfois son histoire à elle. Alors, le jeu, c'est tantôt la maison, tantôt le fils, Franz. Donc, on alterne. Bon, j'ai mis un peu de temps à comprendre ça, mais à ma deuxième lecture, je me suis dit, mais c'est la maison qui s'exprime.
C'est la maison qui parle.
Oui, parce qu'elle a une longue histoire, cette maison-là.
Quoi, pièce par pièce ou... Parce qu'on a déjà lu ça à un moment donné dans un roman, là, assez récent d'ailleurs.
Oui, c'est possible.
Et on entend les pièces qui s'expriment.
C'est pas les pièces directement, non. C'est que le fils, bien sûr, est très content. Franz est un petit gars donc qui a perdu un peu la mémoire, mais qui va réapprendre à la retrouver en quelque sorte. Et il va se mettre à explorer la maison parce qu'elle est vraiment très grande. Ils sont juste deux au départ dans cette maison-là.
Ouais.
Donc il va explorer ça et il est content parce que cette maison-là, même si elle a des zones qui lui paraissent mystérieuses, pour lui, elle est comme rassurante. Il dit « Ma maison est un monde que j'ai hâte d'explorer ». Eh bien, il va le faire pendant 600 pages. Mais curieusement, on ne va pas se lasser parce qu'à cette histoire-là, vont s'en greffer d'autres. On apprend que dans cette maison-là, il y a deux familles juives qui ont été hébergées en cachette en 1941 et 1942. Malheureusement, elles ont été dénoncées. Mais le petit garçon Franz, en explorant la maison, il va trouver un vieux cahier. Et dans ce cahier-là, il y a des lettres. Des lettres que s'étaient échangées une certaine Marie et un certain Marcel. Une histoire d'amour, finalement.
Bien sûr, oui.
Donc, tout ça va remonter à la surface. Et lui, évidemment, c'est un lecteur boulimique. Et il pose constamment des questions à son père. Parce que pour Abraham, il y a une personne importante dans sa vie. Bien sûr, c'est son fils. Mais pour Franz, il y a deux choses importantes dans la vie. Son père, évidemment, et les livres. Parce que des livres, il y en a beaucoup dans ce roman. Et là, je soupçonne l'auteur, Marc Zafran, d'avoir été également boulimique de lecture dans sa jeunesse, parce que ça transparaît. Le petit garçon, il avale littéralement les livres, il les consomme. Et c'est drôle, on l'amuse très bien, on l'imagine très bien sous sa couette avec une lampe de poche. On a tous fait ça, hein, Clotilde?
Oui, bien sûr.
des parents.
Mais sans compter que, comme il est amnésique, il est en train de se reconstruire une histoire. Lui.
C'est ça.
Dans cette maison qui en est pleine d'histoires.
C'est tout ce qu'il lit à gauche et à droite.
Ben oui.
Sherlock Holmes, Tintin, il dévore les romans d'aventure, les illustrés, parce que nous sommes dans les années 60, donc il y a encore beaucoup de livres papier, de magazines, d'illustrés, tout ça. Donc, tout ça va s'ajouter à son histoire, et il se fait un monde à lui, mais il vit dans une espèce de cocon, il va explorer non seulement la maison, mais la petite ville, et on met vraiment en relation la grande maison et la petite ville, qu'on appelle Tillier, là, dans la Beauce. Donc, c'est une belle chronique, une chronique émouvante, une relation entre le père et le fils, c'est touchant. Et si vous aimez les histoires, mais comme elles s'ajoutent constamment les unes aux autres, eh bien, on veut en savoir davantage, on avance, et là, on apprend que les bons vont gagner, évidemment, comme dans les aventures de Zorro que l'enfant regarde à la télévision.
Ah oui, zin, zin, zin. Oh, bien, je me souviens, mais quand on était jeune,
ben, oui.
Le Z, comme ça, qui venait comment, déchirer l'écran. Ah là 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 là. Sans compter qu'on m'appelait le sergent Garcia. Bon, alors, vous savez que si c'est vraiment la ville de Pithiviers, vous savez pourquoi la ville de Pithiviers est célèbre en France?
Je crois l'avoir lu, mais j'ai oublié.
Eh bien, c'est un gâteau qui s'appelle le Pithivier et qui est une espèce de, vous savez, de grosse galette des rois, en fait, parce que c'est vraiment comme une pâte feuilletée comme ça, et à l'intérieur, il y a cette espèce de pâte d'amande, sauf qu'il est plus épais. Que la galette. Et évidemment, il n'y a pas de fèves dedans.
Bon. Vous le faites bientôt, vu que nous sommes déjà à la fin de l'année.
Non, mon ami, non, j'aurais du mal, mais je me souviens que chez nous, traditionnellement, dans ma famille, le dimanche, on mangeait soit la brioche, soit le pithivier. Voilà.
En tout cas, l'auteur a un intérêt certain pour cette ville, parce que Tillier, enfin, vous êtes française d'origine, Clotilde, est-ce que Tillier existe vraiment?
Tillier, ça ne me dit rien, mais bon, vous savez, les petites communes...
Modèle, oui, je pense qu'il a pris pour modèle Pithiviers. D'ailleurs, il remercie à la fin du livre à peu près 300 personnes.
Dont M. le maire, et etc., de Pithiviers. Bon.
On peut penser qu'il s'est effectivement inspiré de Pithiviers. C'est très agréable comme lecture. Hein.
Bon.
Il n'y a pas de suspense comme tel, mais c'est touchant à l'occasion, c'est drôle, évidemment, par bout.
D'accord.
Mais c'est une lecture fort agréable.
Alors, Gérald, je vais rappeler le nom du livre « Abraham et fils » de Martin Winkler, ou Winkler, W-I-N-C-K-L-E-R.
Et voilà.
Et ça nous était présenté aujourd'hui à l'émission par Gérald Cousineau. Merci, Gérald.
Au plaisir, Clotilde.
Au plaisir et bonne lecture.
Merci.
Et oui, Madame Bertrand, encore une fois, qui a donc trouvé qu'il avait une belle voix, notre ami Gérald. Mais vous n'êtes pas le seul. Tout le monde craque sur la voix de Gérald.
Oui, très, très belle voix.
Alors oui, c'est Jeannette Bertrand. Et Jeannette, vous êtes venue, vous êtes... Je m'attendais à ce qu'elle me dise, Jeannette Bertrand, bah, écoutez, ça va me faire plaisir, mais est-ce qu'on peut faire ça par téléphone? Et c'est fantastique parce que finalement, vous vous êtes déplacée pour nous présenter l'un de vos livres le plus récent, qui s'appelle « La vieillesse par une vraie vieille ».
Oui.
Un livre qu'on devrait tous savoir, je pense, maintenant, dans nos bibliothèques, sur nos tables de chevet ou dans nos oreilles, pour en quelque sorte, peut-être pas nous rassurer sur la vieillesse, mais oui.
Oui, nous rassurer.
Nous rassurer parce que vous mettez le doigt sur ce qu'est la vieillesse, sans fioriture, sans fantaisie. Voilà, les enfants, c'est à ça que ça ressemble. Mm-hmm. Et c'est vraiment ce que vous avez voulu faire. Pourquoi?
Parce que moi, j'ai beaucoup appris dans les livres. Et je cherchais les livres quand je me suis vue vieillir. L'âge, quand ma fille aînée a eu 68 ans, 66 ans, je ne sais plus trop. J'ai dit, bon, je dois être vieille, c'est comme rien. C'est ma fille à cet âge-là. Alors, j'ai cherché des solutions. J'ai cherché des moyens de rendre ma vieillesse plus calme, plus riche. Et puis, j'en ai pas trouvé. Alors, j'ai dit, je vais en écrire un. Sur ce que je pense, moi, de la vieillesse, comment j'essaie de vivre ma vieillesse, et ça marche, je suis de bonne humeur, et j'ai une santé, non, mais et ça part, c'est pas ça, ma priorité n'est pas ma maladie.
Non.
Ma priorité, c'est ma vie.
Je suis le jour.
Vivante.
Au présent.
Je suis vivante, mes amies de cœur sont mortes. Moi, je suis vivante. Alors, qu'est-ce que je fais avec ces années-là? Ou bien, je grogne, je chicane, je dis, si ça peut finir, ou bien si j'en profite. Alors, j'ai décidé d'être une grande profiteuse et d'en faire profiter les autres.
Sans compter, Jeannette Bertrand, que tout au long de votre vie, vous avez été celle sur laquelle on a pu compter pour lever des tabous.
Oui.
Énormément.
Dire la vérité.
Dire la vérité. Et oui, mais même aussi lever des tabous. Oui. Je veux dire, parler de choses dont on n'avait pas l'habitude, entre autres à la télévision, des sujets qu'on n'avait pas l'habitude d'aborder. Alors je me disais, après tout, s'il y en avait encore un seul qui lui restait à traiter, c'est bien la vieillesse. Mais remarquez, l'avenir nous dira que non, parce que vous avez d'autres projets dont on ne parlera pas tout de suite.
mais c'est que, on dirait que dans cette... qu'il n'y en a que pour les jeunes.
Oui.
Alors que... il y a plus de vieux en ce moment au Québec qu'il y a de jeunes. Écoutez, il y a 60... comment est-ce qu'on appelle ça? Regarde la mémoire des vieux, là. Des gérontologues.
Oui.
Il y en a 60. Il y a 600 pédiatres pour les enfants. Alors donc, les vieux, c'est dans une société de consommation, c'est pour jeter. Nous nous en occupons pas. Ben moi, je veux brasser la cage. Je veux dire, oui, occupez-vous de nous autres, parce qu'on est important.
D'ailleurs, en page 60, vous posez une question tellement intéressante que je vais vous poser. Passera-t-on du siècle de la jeunesse au siècle de la vieillesse? Quand je vous écoute, on se demande, en tout cas. On n'est pas encore là.
C'est-à-dire plus... quand les baby boomers vont être vieux, ils ont entre 60 là, et 65. On est vieux à partir de 70. De nos jours, de 70, et on vit jusqu'à 100 ans. Il ne faut pas oublier qu'il y a 1800 centenaires au Québec en ce moment. 1800 centenaires au Québec. Et on me dit que les enfants qui naissent en ce moment vont vivre jusqu'à 120 ans. Alors, il va en avoir des vieux. Il va en avoir des vieux. Faut plus les mettre de côté. Faut que nous autres-mêmes, on s'enlève du côté pour se remettre au centre.
Oui. Et puis, il y a surtout, dans ce livre-là, c'est que vous n'êtes pas une vieille ordinaire, Jeannette. Je veux dire, dans le sens où vous êtes encore... bon, vous le dites à plusieurs reprises, souvent, vous avez été hyperactive. Aujourd'hui, vous n'êtes plus qu'active.
Oui. Oui, c'est sûr que je suis quelqu'un de très, très actif parce que je trouve que c'est comme ça que je garde mes neurones, ma tête. C'est comme ça que je garde ma tête. J'ai enseigné pendant 20 ans. C'est la première année où je n'enseigne pas cette année. Et alors, je me suis trouvée des gens à qui je donne des cours.
Des cours, entre autres, pour oui, écrire des livres. Hein?
Oui, oui. Pour une espèce de mentorat. Je ne peux pas en prendre beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Et puis, je donne des cours. Je vais te donner ce que j'ai.
Oui.
Je vais te donner ce que j'ai.
Oui, oui. D'ailleurs, vous m'amenez à la page 48, parce que justement, c'est là qu'il est question de l'enseignement. Et là, je voudrais vous citer hein, par rapport à l'enseignement. Parce que je me suis jurée à la sortie de mon école primaire, alors que j'étais parmi les élèves qui continuaient leurs études, d'apprendre et de transmettre mon savoir à celles qui n'avaient pas la chance d'étudier. Naïveté, orgueil, je me sentais l'âme d'un professeur. Mmh. Le public avide de découvertes m'apprécie pour les messages que je sème ici et là, enfin, j'espère. Oui, mais les messages, c'est fatigant.
Oui, c'est fatigant, les messages. Mais il y a aussi Clotilde, qu'on n'a pas de modèle. On a des modèles de vieux, des fois, qu'on nous montre à la télévision, qui ont été maltraités, qui sont grabataires. On a peu de modèles à la télévision de femmes âgées et qui sont dynamiques qui ont tout leur esprit. Oui. Je pense à Leonard Cohen qui dit « I've got all my marbles ». Ça se dit en anglais, j'ai tous mes marbres. En français, ça ne se dit pas. Mais c'est que les gens, il y en a beaucoup, moi je connais des femmes très ordinaires qui sont très intelligentes, qui connaissent tout là, de Trump puis de Hillary Clinton, oui, puis qui ont lu. Puis, mais ils ont 90.
Mais oui.
Alors, tu sais, pourquoi? C'est sûr qu'il y en a 90 qui se font de l'Alzheimer, mais il y en a d'autres qui n'en font pas.
Oui.
L'Alzheimer, c'est une maladie dont tout le monde n'est pas atteint.
Non. Et ça aussi, vous le dites d'ailleurs à un moment donné, dans le livre, c'est que souvent on parle de ce qui ne va pas. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui vont bien. Il y a encore plein de gens qui sont en amour à votre âge, comme vous d'ailleurs.
Mais oui, et c'est essentiel, une lettre extraordinaire d'une comédienne qui ne joue plus et qui me dit, j'ai 72 ans, je viens de tomber en amour avec un homme de 66. Et c'est vraiment, je ressens du désir, tout ça. Mais il faut en parler de ces cas-là. Et tous les gens pensent qu'ils vont finir par être Alzheimer. Mais pas du tout. C'est une maladie. On perd la mémoire. Et comme tout le monde, perd la
comme
mémoire.
Tout le monde,
où est-ce qu'ils sont les clés, les noms propres, tout le monde a de la misère avec les noms propres. Nous autres, un peu plus. Encore plus.
D'ailleurs, en quelques lignes, à un moment donné, ce ne sont pas des lignes que j'avais soulignées, mais je m'en souviens très bien, vous décrivez très bien ce qui fait la différence entre la simple perte de mémoire et l'Alzheimer. Arrêtez de paniquer. Non, vous n'êtes pas Alzheimer.
Non, c'est ça.
Mais vous rassurez comme ça beaucoup. Et vous m'avez tellement surprise, il y a une page, je ne pensais pas parler de ça tout de suite, mais c'est la page 110. Et là, je vais essayer de le dire sans aucune émotion, mais j'avais tellement l'impression... c'est une page que vous avez écrite, c'est la première fois, écrivez-vous, que je lis une description de la mort qui raconte exactement celle de mon père. Et c'était évidemment celle que moi j'ai vécue aussi avec le mien. Mais vous en parlez à la fois avec un détachement. Voilà, la réalité de la mort, c'est ça. Et vous parlez du dernier râle, et vous parlez de tout ce qu'on vit.
De l'euphorie qui arrive avant la mort, c'est scientifique. Là, ce que je dis, ça ne vient pas de moi, ça vient de Sherban Shriver, qui est mort d'un cancer du cerveau.
Du cerveau.
Mais c'est ça, on parle de la mort, ça va arriver. Moi, je sais pas de quoi je vais mourir, mais je vais mourir, puis je m'y attends, puis c'est normal. Et c'est la seule justice en ce bon monde, c'est que tout le monde meurt. Les pauvres, les riches, tout le monde meurt.
Du coup, vous êtes...
Les méchants et les bons.
Du coup, vous êtes ce que vous prétendez, j'adore cette, une rebondisseuse de haut niveau.
Ah, je suis une rebondisseuse. S'il y avait vraiment, c'est ce que j'écris, s'il y avait vraiment une médaille d'or, je serais la grande rebondisseuse.
Alors, la valorisation, ce que vous valorisez beaucoup, dans votre vieillesse, Jeannette Bertrand, et vous en parlez beaucoup dans le livre, c'est le don de temps, donner du temps et le travail.
C'est ça.
Ça, c'est pour vous, c'est essentiel.
C'est le travail, tu sais, ne rien faire n'a jamais valorisé personne. Il faut se sentir valorisé dans la vie. Oui. En naissant, on veut. C'est mon jouet, c'est ma maman, c'est mon papa. Mmh, mmh. Bon, on veut être valorisé, être reconnu. Mmh. Et on n'est pas reconnu ailleurs que dans le travail, c'est comme ça.
Mmh. Ah ben oui.
Ou dans le don de soi. Oui. Ou dans le don de soi. On peut être reconnu en étant une super arrière-grand-mère, en faisant du bénévolat, par exemple. Bon, moi, j'avais un peu scandalisé quand je suis allée faire telle aide. Et j'avais un peu scandalisé le monsieur en lui disant, je ne viens pas pour aider, je viens pour me faire aider. Parce que je venais de divorcer et j'avais vraiment besoin de me faire aider. Et je suis allée faire du bénévolat. Mmh. Et ça, c'est ça que ça a donné. Je me suis rendu compte qu'il y en avait des pires que moi.
Mmh. Et sans compter que vous êtes quelqu'un, et vous le dites aussi dans ce livre, vous savez parler, vous savez écrire, mais vous savez écouter.
Oui.
Beaucoup.
Ça, il faut apprendre à écouter. Et j'ai appris à Télède. J'ai appris à Télède, qui est des téléphones pour des gens qui veulent se suicider ou qui ont des idées suicidaires ou tout simplement, ce sont des gens seuls qui appellent surtout.
Ouais. Et puis, vous nous faites sourire. Parfois, comme par exemple l'affaire « J'ai le choix, ou bien la peur de tomber me cloue au fauteuil, ou bien j'accepte le risque de tomber en vaquant à mes occupations. J'ai choisi de vivre. Et tant pis si je me casse quelque chose, dites-vous. Quand je quitte mon bureau, mon rhumatologue me recommande « Ne tombez pas ». Et là, vous dites, bah oui, mais comme si on choisissait de tomber. Je fais attention, j'ai des chaussures aux semelles antidérapantes. Qu'est-ce que je peux faire de plus?
C'est ça.
Je ne suis ni une grande malade et ni une invalide. Je suis juste vieille et je suis fière de l'être. C'est la preuve que je suis en vie.
Exactement. Quand tous les matins, je me lève et je dis ceci, que je suis chanceuse d'être vivante.
Oui, oui.
Que je suis chanceuse d'être vivante. Oui. Puis je regarde dehors, Alors là, la vie est belle parce que c'est un cadeau qui m'est donné. Mes amies de filles, elles sont toutes mortes.
Oui, Clara,
je suis la seule.
Ça, c'est ça. Mais par contre, on va rassurer tout le monde. Parce que là, je suis sûre qu'il y en a qui disent, là, comment ça m'énerve. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas des fois... Mais évidemment.
Mais oui.
D'abord,
mais oui.
Vous souffrez dans votre corps.
Oui, oui. Beaucoup.
Bon, évidemment.
Beaucoup.
Et il y a même des matins où vous souffrez. C'est tellement bien écrit. Un matin où il ne fait pas beau, c'est un lundi. Mm. Vous êtes au chalet avec votre amoureux, Donald. Mm. Puis ce matin-là, pouf, vous n'avez pas envie. Mm. Puis finalement, entre le moment où vous mettez le pied par terre, le corps endolori, comme tous les matins quand vous vous levez, jusqu'au petit déjeuner. Je ne me souviens plus ce qui se passe, mais il y a comme une idée.
C'est-à-dire que moi, ce que je crois beaucoup à la parole.
À la parole.
Je crois qu'il faut sortir nos frustrations. Il faut se trouver quelqu'un qui est capable de les prendre, par exemple. Alors, moi, je dis à Donald, qui est capable de les prendre, enfin, j'espère, je lui dis, coudonc, va me jeter au vidange. Va me jeter au vidange, je suis aussi bien. Je ne sers à rien, je ne suis pas bonne, je ne suis plus bonne. Bon. Puis là, j'ai tout dit. Puis il ne dit pas un mot. Puis il continue. Puis là, ça fait du bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait?
Alors,
c'est sûr que j'ai mes moments où je dis
bien sûr.
Pourquoi vivre encore? Mais c'est des moments qui sont courts.
Et il y a le bonheur, vous lui consacrez un chapitre. En disant, oui, je sais, le bonheur, c'est un sujet usé à la corde, vanté, chanté, ridiculisé depuis des siècles, un sujet quétaine. N'empêche. Vous dites que partager ce que je sais sur le bonheur est devenu ma raison de vivre.
Oui.
Mon but, surtout depuis que le cancer a attenté à ma vie, on s'en souviendra.
Oui, oui.
Ça remonte à il y a combien de temps, ça, maintenant, déjà?
Ça fait 6 ans, je pense.
Ça fait 6 ans.
Ou 10. Écoutez, je m'en souviens plus.
Moi, je pense que c'est plus 10 ans que 6.
C'est plus que 10 ans. Moi, je ne suis pas bonne d'un date, là, du tout. Alors, c'est plus que 10 ans. Puis c'est comme derrière moi. Puis s'il y a une récidive, il y aura une récidive. On prendrait moyen pour l'enlever. Puis si j'en meurs, ben ce sera le temps de mourir.
Bon. Alors, les livres, parce qu'il nous reste quelques minutes. Je veux qu'on parle des livres, parce qu'il y a les vôtres, évidemment. Et vous savez qu'on a tout enregistré.
Je suis tellement contente d'apprendre
ça. Alors, Lit double, 1, 2 et 3. Ils sont là, les trois. La vieillesse par une vraie vieille, bien sûr, nous sommes en train d'en parler, Jeannette Bertrand.
Oui.
Ma vie en 3 actes.
Oui.
Et là aussi.
C'était mon premier.
Voilà. Et il y a aussi Le Cocon.
Oui. C'est un livre sur le suicide.
Voilà, qui a été enregistré. On a même vos recettes, Jeannette. Les recettes de Jeannette ont été
enregistrées. Non, non, non. puis ils sont bonnes. Ils sont vraiment bonnes.
C'est vrai. Et puis enfin, on a le bien des miens aussi qui a été en.
Oui.
Donc voyez-vous, on a vraiment tout. Mais il n'y a pas que vos livres. Chez vous, là, il y en a partout des bouquins.
Ah oui.
Vous aimez ça, hein?
Oui. C'est-à-dire que j'avais quand je suis partie de la maison et que je suis arrivée dans un petit appartement, c'est sûr qu'il a fallu que j'en donne. Alors, je veux que d'autres profitent. Alors, je les envoie à des maisons pour femmes, lire un bon livre quand on est dans le malheur. Bon, je les prête beaucoup, je les passe à mes enfants, mais quand j'en ai trop, je les envoie dans des maisons pour femmes.
Mais donc, vous en avez toujours plusieurs ouverts en même temps?
Oui. Oui, et puis à part ça, je suis comme une alcoolique. Et il faut que j'ai ma caisse de bière à côté. Non, ma caisse de livres. C'est, j'ai les livres que peut-être que... Puis là, chaque année à Noël... Je demande à mes enfants, puis à mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants, je leur fais ma liste de livres. Et c'est des livres que je vais avoir parce que c'est de l'argent en banque. C'est du savoir en banque. C'est pas de l'argent. Et je suis abonnée à une librairie en plus.
Ah oui.
À une bibliothèque.
Une bibliothèque,
et
oui.
Je vais dans les librairies. Alors imaginez si je lis.
Et vous écrivez encore beaucoup.
Et j'écris beaucoup. Encore, oui.
Anne Sylvestre a déjà même écrit une chanson qui s'appelle Écrire pour ne pas mourir.
Oui, exactement.
Et vous avez écrit Écrire pour continuer. Attendez, pour vivre simplement.
Quoi. Écrire pour vivre.
Pour vivre,
oui,
c'est
écrire.
Ça. Exactement.
Si on savait à quel point c'est bon, parce qu'on attend toujours d'avoir le talent d'écrire pour écrire, mais juste prendre ses pensées d'aujourd'hui et les écrire, puis après ça, les relire, c'est. Extraordinaire comme c'est thérapeutique. Les écrire, bon, j'écris pas sur moi, mais là, c'est un spécial, là, par une vraie vieille, là, oui, c'est moi la vraie vieille, mais moi, je souhaite à tous les gens de prendre un crayon, un papier, puis d'écrire ce qu'ils ressentent.
Jeannette Bertrand, la dernière page du livre, page 302, avant les remerciements, est consacrée à vos projets quand même, une page de projet quand même.
Oui.
Il nous reste une minute.
Alors, quand on n'a pas de projet, Clotilde,
oui.
On est vieux.
On est foutu, quoi.
On est foutu. Il faut avoir un projet aussi fou qu'il puisse être, aussi simple qu'il puisse être. Mon projet, aller à Québec. Mon projet, aller à rue Sainte-Catherine. Bon, mais un projet. Il faut un projet.
Alors, le prochain sujet, le prochain tabou que
le
vous allez lever.
Le prochain tabou, ça va être un peu comme avec un grand A que j'ai fait. Je prends quelque chose que je ne comprends pas. Et je vais le décortiquer pour comprendre et le faire comprendre aux autres.
Et
c'est la bisexualité. Pourquoi vous riez?
Parce que je trouve ça fantastique. Je trouve ça fantastique. Jeannette Bertrand, oui. Il nous reste 20 secondes pour...
Merci.
va se dire au revoir. Mais merci à vous.
Merci.
Et merci pour toutes les personnes âgées qui vont... Lisez ce livre, offrez-le à Noël. Voilà, le cadeau de Noël, c'est le livre de Jeannette Bertrand, La vieillesse par une vraie vieille.
Commencez jusqu'à 50 ans, avant 50 ans, c'est trop de bonheur.
Des livres pleins les oreilles, seconde partie. Bonjour Jocelyne.
Bonjour Clotilde.
Jocelyne Allary, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, Jocelyne, bénévole, lectrice depuis quelques années.
Oui, et bien du plaisir à le faire.
Et bien du plaisir à le faire, que vous en avalez du kilomètre pour venir nous voir quand même.
Je fais mes 100 kilomètres pour venir, oui.
Mais oui, et pour repartir, et c'est ça. Mais à chaque fois, je le précise parce que ça m'épate toujours. Jocelyne, de quel livre vous nous parlez aujourd'hui?
Alors, je vous parle d'un livre écrit par William Boyd.
Oui.
Il s'appelle « Les vies multiples » d'Amory Clay,
mmh.
où il est démontré qu'une vie faite d'erreurs est plus satisfaisante qu'une vie passée sans prendre risque.
Je suis sûre que si Madame Jeannette Bertrand était encore là, elle vous dirait « Oh que oui, Madame
!» N'est-ce pas? Ah oui, il faut prendre des risques, c'est la belle vie.
C'est une belle brique, hein, quand même.
Si, c'est vrai, quand même, effectivement, mais c'est un rythme assez... je dirais soutenu pour que tout soit intéressant parce que c'est effectivement sur une longue période, ça se passe sur 70 ans quand même.
D'accord.
Amory Clay, le récit commence en 1908 où elle est fillette et ça se termine en 78 au moment où effectivement sa vie ça se résume à finalement un fauteuil, la vieillesse, mais quand même avec une vie bien assumée, et puis une femme franchement intéressante.
Alors, qui était Armand Clay? Armand Clay.
Bon, le personnage, parce qu'effectivement, ce qui est étonnant dans l'histoire, c'est qu'on croit qu'Amory Clay a existé tellement c'est bien écrit, mais Amory Clay est une création pure et simple.
Romanesque.
De William Boyd, mais avec autant de crédibilité parce qu'effectivement, il se colle beaucoup à toute l'histoire, à toute sa trajectoire, à partir des guerres, à partir de la montée du fascisme en Europe, de l'évolution des femmes aussi, parce que effectivement, Amory Clay est une féministe qui s'assume très bien, qui mène une vie pleine et intéressante et palpitante. Alors, je pense qu'on croit qu'on va trouver un personnage inspirant derrière, au fond, William Boyd s'est laissé porter par son personnage et effectivement, il en a fait quelque chose de très intéressant.
Alors, cette femme-là, on la retrouve beaucoup derrière un appareil photo, c'est ça?
Si. Oui, le fil effectivement conducteur du roman, c'est qu'elle a une passion pour la photographie, elle va en faire son métier, et puis ça va lui permettre d'être présente au monde et d'observer un monde de tumultueux autour d'elle. Mmh. Alors effectivement, c'est un personnage qui est, c'est vrai, d'abord, Amory Clay, c'est une femme en quête d'amour, mais c'est quand même aussi une femme en quête d'expression artistique. Et puis, elle recherche surtout un sens aux événements qui l'entourent et aux rencontres de sa vie.
Quel genre d'événements elle croise dans sa vie?
Alors, c'est sûr qu'effectivement, le roman est traversé par les trois guerres. Par trois guerres, en fait. Quand elle naît, son père a fait la Première Guerre mondiale, ce qui l'a rendue un peu, effectivement, déboussolée. Mm-hmm. Ensuite, elle va vivre, bien sûr, la Deuxième Guerre mondiale, où là, elle va rencontrer son mari, qui, lui, est vraiment, marqué par les mauvais souvenirs de combat qu'il a vécu. Oui. Et ensuite, elle ira à la guerre du Vietnam. Elle va y aller comme attachée de presse, dans les services de presse. Et là, elle va connaître le dernier amour de sa vie. Elle analyse tous ces événements-là et à un moment donné, bien sûr, elle est aussi mêlée à des manifestations en Angleterre, à la montée du fascisme. Alors, effectivement, c'est l'histoire qui mène, les événements historiques qui mènent le roman. Oui.
Et est-ce qu'on peut dire, parce que cette femme-là, d'après ce que je vous entends en parler, moi je ne l'ai pas lu du tout, est-ce que c'est le roman d'une femme ou d'une féministe?
Oh, non, c'est d'abord le roman d'une femme. Elle-même ne se déclare pas féministe, mais bien sûr, toute son histoire montre qu'effectivement, elle a été très autonome, elle a été toujours déterminée, puis elle a mené son destin sans attendre rien. C'est pour ça que, effectivement, c'est une belle démonstration d'une femme assumée sans clamer, bien sûr, que les femmes. Non, il n'y a pas de défense.
Je comprends.
Pas du tout.
Qu'est-ce que vous retenez alors de ce livre et de cette femme?
Ma foi, je retiens de tout ça que, effectivement, c'est un récit qui est intéressant parce que tous les événements dont ils sont traités sont d'abord des vérités bien vérifiées par William Boyd, mais au fond, ça se passe entre la société anglaise confortable de la fin 1910, disons, mais ça va jusqu'à après la guerre du Vietnam. Et là, il y a toutes ces sociétés qu'elle traverse parce qu'elle voyage beaucoup aussi.
Avec
son appareil photo, elle va faire des photos à Berlin, elle va faire des photos à New York, qu'elle va faire des photos à Paris, bien sûr. Alors, ce qui fait qu'effectivement, on traverse tous ces événements-là et c'est vraiment crédible. Et je dirais que c'est un roman qui n'a pas une happy end, d'accord, mais célèbre le respect de la vie aussi. C'est d'abord celle d'Amory Clay qui est respectée parce qu'à un moment donné, elle décide elle-même de mettre fin à ses jours. Parce qu'elle considère que sa vie, la déchéance est trop avancée. Mais par contre, c'est aussi ce qu'on en retient, c'est que chacun doit vivre sa destinée avec ses succès, ses revers, mais qu'il vaut mieux une vie bien assumée qu'une vie subie.
On en revient à votre introduction. Très belle conclusion. Voilà. Est-ce que vous avez un petit extrait à nous lire?
Volontiers,
s'il vous plaît.
Certainement. Je pense que c'est un beau portrait de toute... tout ce qu'on a vu dans cette histoire-là. Voilà, c'est vers la fin, quand elle est au Vietnam et elle est expulsée du territoire. Assise là, sans confort, inquiète, un peu triste, un peu en colère à cause de cette expulsion sommaire, je me demande si j'ai bien fait de m'embarquer dans cette aventure au Vietnam, de quitter ma maison, pardon, et ma famille, de me lancer dans une mission mal ficelée pour me prouver quelque chose à moi-même, pour découvrir quelque chose sur moi-même. Qu'ai-je appris que je ne savais déjà? En réalité, beaucoup plus que je ne croyais. Et j'ai pris quelques bonnes photos, et j'en ai fait un livre, et j'ai gagné de l'argent, et j'ai rencontré et aimé un autre homme. Je ne crois pas que je puisse me reprocher d'avoir voulu faire ce que j'ai fait. Et je ne crois pas qu'Annie et Blit me le reprochent non plus. C'est ma vie, après tout, et j'ai le droit de la vivre pleinement. Voilà.
Merci beaucoup, Jocelyne Allary, qui nous parlait de ce livre « Les vies multiples d'Amory Clay » de William Boyd. Oui. C'est toujours un plaisir, Jocelyne, de vous entendre. Et merci, encore une fois, d'être là pour
Alors,
nous.
Ça a été un plaisir aussi pour moi. Et j'ai voulu le partager avec tous vos auditeurs.
Merci, Jocelyne. Bonne fin de journée. Salut. Alors, comme à l'habitude, c'est l'heure de vous lire un extrait d'un livre dont il a été beaucoup question avec ma deuxième invitée au tout début de l'émission des Livres Pleins les Oreilles, c'est-à-dire Jeannette Bertrand, qui nous a fait la joie de sa présence pour nous présenter La vieillesse par une vraie vieille. Alors, en voici un extrait. Nous sommes en page 189 et ça s'appelle « Ce qui est fait est fait ». De tous les conseils reçus de mon père, celui-ci est précieux, si utile que je me dois de le partager. Chaque fois que je disais « j'aurais donc dû », mon père me répétait « ce qui est fait est fait ». C'était sa façon à lui de me signifier que les regrets ne servent à rien quand il s'agit d'événements passés auxquels on ne peut rien changer. J'aurais donc dû régler mes comptes avec mes frères avant qu'ils meurent. J'aurais donc dû questionner ma mère sur son enfance. J'aurais donc dû ne pas devenir enceinte tout de suite en me mariant. Et puis, il y a les autres regrets du style « j'aurais pas dû me marier si jeune, j'aurais pas dû me chicaner avec mes frères, ressasser les regrets, ça donne des rides et les bouches plissées. Ah, j'oubliais le « si j'avais su, je me serais jamais mariée, je me serais séparée avant. Si j'avais su, j'aurais quitté ma job. Si j'avais su. » C'est « si j'avais su » sont, paraît-il, le sujet de conversation qui revient le plus couramment dans les réunions de famille. Hélas, parler de regrets nous entraîne dans une spirale négative. C'est du contrôle, après tout. Quand ça m'arrive de tomber dans la spirale négative, je fais appel à la phrase de mon père et elle me ramène sur terre. C'est fait. Et je m'efforce de ne pas revenir sur le sujet. Les perfectionnistes ont une peur terrible de se tromper, ce flagelle de regrets. À eux et à tous ceux qui cultivent ce que Victor Hugo appelle le bonheur d'être triste, je suggère de vivre dans le présent. Je ne parle pas ici des regrets qui mènent aux excuses, au pardon. Ceux-ci sont bénéfiques et je ne m'en prive pas. Je ne compte pas les « je m'excuse » qui sont sortis de mon cœur. Par ma bouche, il y en a trop. Avouez qu'on s'est trompé, qu'on s'excuse, faites autant de bien à l'autre qu'à soi. Je vous préviens, c'est pas facile de passer de la frustration, de la culpabilité, de la dévalorisation à l'acceptation de la vie telle qu'elle est. De passer de la douleur du passé à la sérénité du présent. De passer de la pensée négative à la pensée réaliste. Ce qui est fait, est fait. Le regret n'est pas du remords. Le remords est le regret d'action ayant nui à autrui. Le meilleur moyen de ne pas avoir de regrets, c'est de vivre dans le présent et de se donner le droit à l'erreur. Alors voilà, c'était donc un extrait de La vieillesse par une vraie vieille de Jeannette Bertrand. Si tout va bien, je devrais peut-être parler d'ici quelques secondes avec l'ami Gérard Saint-Denis. Ça, c'est une nouvelle chronique, Jocelyne, que nous avons instaurée il y a maintenant 2 semaines avec l'ami Gérard. L'idée de parler d'un artiste musicien. Alors, il y a 2 semaines, nous avons évoqué la vie de Barbara et cette semaine, on a décidé d'évoquer
l'homme que fut Leonard Cohen, qui a disparu maintenant il y a un peu plus de 2 semaines au moment où cette émission passe sur nos ondes. Alors, l'ami Gérard Saint-Denis, comment ça va, mon Gérard, aujourd'hui?
Ça va bien.
Bon, oui. Alors, nous avons eu la triste... Oui?
J'ai réfléchi beaucoup.
Ah oui?
Oui, parce que Cohen, c'est un grand poète.
Hein. Oui.
C'est un très, très grand poète.
Oui.
Et je vais vous dire une anecdote. Il y en a qui croient, je respecte ça beaucoup, mais moi, je ne suis pas obligé de croire, mais il y en a qui croient qu'il y a un ciel et qu'on va se rencontrer. Si c'est vrai, là, je vous dis qu'il y a un party qui est en train de se tenir avec Baudelaire, Verlaine, Lamartine, Rimbaud, Musset, il doit y avoir un fun noir, là,
Oui, absolument, vous avez raison.
Et je dois vous avouer, moi, à chaque fois que j'écoutais ou je lisais quelque chose de Cohen, savez-vous à qui me faisait penser?
Non.
À Prévert.
Ah?
C'est comme Prévert. C'est-à-dire, c'est la même approche, c'est la même sensibilité, c'est le même dynamisme de la poésie. Il y a une force dans Cohen qu'on retrouvait dans Prévert. Tu sais.
Oui, oui.
J'ai pas besoin
de
vous parler de l'enterrement d'une feuille morte, là.
Non, mais je comprends.
Mais c'est ça. Et en plus, il y a une affaire aussi qui est pas mal d'actualité. je le fais par la négation. Je dirais que Cohen, c'est l'inverse de Trump.
Ah!
Exactement l'inverse.
Allons-y. Non, mais allez-y.
Je pense que...
Ben, c'était un humaniste.
Son approche naturelle, son approche... il y a quelqu'un qui a écrit dans Le Devoir il y a une semaine à peu près, si je me rappelle bien, qui a écrit « C'est une solution permanente à la fureur du monde.
» Oui.
Je trouve ça bon. C'est ça. C'est vraiment un homme qui nous a apaisés, qui nous a fait du bien.
Alors,
il chantait, il nous faisait du bien. Il écrivait, il nous faisait du bien.
Oui, non, c'est vrai.
Il était heureux de le faire. Ça paraissait.
Alors, cet homme-là, il a eu le droit, entre autres, à une bio qui a été écrite...
Qui a été écrite par Bruce Ira Nadel.
Oui, c'est ça.
On la retrouve au SQLA.
D'accord.
Facilement.
Oui.
Il y a aussi un livre qu'on va trouver à l'INCA. Qui est livre du constat désir, qui est écrit par lui.
Oui.
C'est-à-dire, après un long silence, Leonard Cohen revient à la poésie avec une suite de poèmes d'amour et de désir et d'une grande puissance.
Mm-hmm.
On peut avoir ça à l'INCA.
D'accord.
Et ceux qui sont abonnés à AVH, Association de l'Antenne AU, il y a un livre de Dominique Jean Brière, qui est une biographie fort intéressante sur Leonard Cohen, lui-même, ça se dit.
Ah, d'accord.
Mais c'est pas par lui-même, c'est écrit par Dominique Jean Brière.
Okay.
Mais ça réfère à l'artiste, ça réfère à ses écrits et à ses entretiens.
Il
y a des choses à lire intéressantes sur lui, de ceux qui veulent poursuivre leur réflexion.
Je voudrais juste préciser 2 petites choses. Le livre de Mme Nadal, c'est Leonard Cohen, sous-titre « Le Canadien errant ».
C'est ça. Hein,
pour faire référence aussi à la chanson, bien connue.
Oui.
C'était Carignan, il s'appelait?
Je dois vous la chanter?
Oui, allez-y. Hein, allez, on le fait ensemble. Allez. Un Canadien.
Banni de ses foyers. C'est merveilleux.
C'est ça. Et puis, il y a aussi les perdants magnifiques. On peut trouver ça le SQLA aussi. Ce sont des écrits de Leonard Cohen également.
C'est bon, ça.
Voilà.
C'est merveilleux. On a des belles choses.
On peut se rincer les oreilles abondamment avec ses écrits, mais aussi avec sa musique. Et ce que je vous propose à vous et à tous nos auditeurs. Écoutez, je vais vous faire écouter un extrait que j'ai choisi de son tout dernier album.
Ah bon?
Et c'est un dernier album. C'est tellement évident que ce type sent qu'il va partir, qu'il va aller rejoindre sa muse. Hein. Vous savez qu'il a été très, très touché, bouleversé lorsque son grand amour est parti il y a seulement quelques semaines, quelques mois. Et il y a une chanson, entre autres, écoutez bien le texte, ça s'appelle « Leaving the Table ».
Oh, thank you, madame.
Au revoir, Monsieur Saint-Denis. Have a good day. Bye-bye.
I'm leaving the table. I'm out of the game. I don't know the people in your picture frame. If I ever loved you, oh no, no, it's a crying shame if I ever loved you. If I knew your name, you don't need a lawyer. I'm not making a claim. You don't need to surrender. I'm not taking aim. I don't need a lover. No, no, no. The wretched beast is tame. I don't need a lover. So blow out the flame. There's nobody missing. There is no reward. Little by little, we're cutting the cord. We're spending the treasure. Oh, no, no. That love cannot afford. I know you can feel it. The sweetness restored.
On ne peut qu'être touché. Leaving the Table, extrait du tout dernier album de Leonard Cohen, dont nous saluions la disparition, bien sûr, mais la vie surtout, et l'œuvre avec l'ami Gérard Saint-Denis, que je remercie encore beaucoup pour cette nouvelle participation. C'est maintenant l'heure de la bande-annonce de la semaine prochaine. Alors, Catherine Perrin, oui, Catherine Perrin, vous avez raison. Elle est déjà venue à l'émission au tout début,
quand j'avais repris les rênes de l'émission qui s'appelait alors « À livre découvert ». J'avais invité Catherine, qui est une ancienne collègue aussi et amie. Et là, ça faisait longtemps que j'avais ce petit livre entre les mains qui a été salué unanimement par la chronique, par la critique, pardon, qui s'appelle Une femme discrète, qui est un récit sorti chez Québec Amérique. Maman est morte. Maman est morte le 27 mars 2012 à l'âge de 76 ans, écrit Catherine Perrin. Il faut commencer par là, même si ça fait mal. Il faut commencer par là parce que c'est sa disparition qui a éveillé en moi le besoin de raconter. Je voulais raconter une histoire d'amour, une lettre, une histoire où l'amour a lutté pour l'emporter sur un trou noir qui aurait pu engloutir une vie. Dans ce récit intime et émouvant, nous dit-on, simplement en quatrième de couverture, Catherine Perrin retrace le singulier destin de sa mère, une femme à la fois douce et discrète, qui a souffert dans les dernières années de son existence d'une maladie dégénérative rare, affectant à la fois les mouvements, l'équilibre et la mémoire. L'auteur entreprend de remonter le fil de la vie de cette femme, de ses dernières heures jusqu'à son enfance, marquée par un traumatisme qui l'accompagnera tout au long de ses jours. Et parallèlement à ce récit qu'elle entrecoupe d'une lettre posthume à sa mère, Catherine Perrin enquête pour en savoir davantage sur les effets à long terme que peut avoir un choc subi à un jeune âge. Une psychiatre, un chercheur spécialiste du cerveau, un chirurgien du ventre, une ostéopathe et un moine bénédictin se retrouvent ainsi sur sa route. Alors Catherine Perrin, que bien sûr on peut retrouver quotidiennement à la radio sur les ondes d'ici Radio au Canada, le matin hein, sur les ondes, eh bien on aura la chance de la voir ici en studio pour nous parler de ce livre dont je vous rappelle le titre « Une femme discrète ». Et nous allons finir avec quelques titres en rafale, bien sûr, comme c'est la tradition. D'abord, Le cœur bleu d'Aline Apostolska. Aline a déjà été aussi l'invitée de l'émission Des livres pleins les oreilles. Vous savez qu'elle est l'auteur d'une trentaine de livres. Eh bien, cette fois-ci, elle nous raconte l'intense histoire d'amour unissant un jeune musicien d'une île des Caraïbes et une Québécoise à l'aube de la cinquantaine dans ce livre qui s'intitule Le cœur bleu. Son récit est celui d'une relation si forte qu'elle triomphe de la mort qui rôde, de la solitude, de l'état de manque, de la distance, même de tous ces éléments qui pourraient empêcher l'amour entre Juliette et Roméo, mais finissent par le nourrir. C'est un roman d'après une histoire vraie, mais c'est grossi ou diminué ou transposé, disons, de dire Aline elle-même. Mais le 29 avril, alors que je partais pour une tournée en Europe, j'ai fait une hémorragie pulmonaire et on m'a dit que j'avais un cancer du poumon. J'ai fait tous les examens possibles et inimaginables, j'ai été immobilisée pendant 3 mois. Je me suis mise à écrire le livre parce que ça m'a sauvé la vie, la tête surtout, partage Aline Apostolska en entrevue téléphonique. Heureusement, la maladie est derrière elle, tout va bien et elle est en parfaite santé suffisamment pour écrire et pour nous offrir le cœur bleu. Tiens, pourquoi pas un livre pour les enfants, 6 ans et plus. « Maman pète les plombs et papa est dans la lune ». J'aime tellement ce titre, c'est fou. Ce sont deux histoires qui se suivent, mais dans le sens inverse. Un style tête bêche comme ça, qui convient parfaitement aux deux narrateurs, qui sont des jumeaux identiques et inséparables. Alors d'un côté, nous avons une maman qui pète les plombs parce qu'elle est au bout du rouleau, et de l'autre, nous avons un père totalement distrait et lunatique. Mais qu'est-ce qui peut bien mettre les jumeaux dans cet état ? En fait, non, qu'est-ce qui peut bien mettre les parents dans cet état ? Eh bien, ce sont les bébés jumeaux. Un enfant, c'est bien. Mais deux en même temps, c'est la joie, bien sûr, mais c'est aussi la galère et la fatigue extrême des journées bien remplies quand on a des jumeaux, des changements de couches synchronisés, des repas en duo, des câlins dédoublés, chaque minute est comptée. Alors, quand maman est impatiente et que papa est distrait, on obtient des situations parfois un peu loufoques. Et les frères, Billy, Bob et Tommy Lou, en savent quelque chose et c'est avec humour et beaucoup d'amour qu'ils relatent les péripéties de leurs parents complètement épuisés dans « Maman pète les plombs et papa est dans la lune ». C'est tellement fun à dire. Mauvaise langue de Marc Cassivi.
C'est un court manifeste qui se veut une réponse à l'hystérie de ces curés aux oreilles écorchées par le chiac de Lisa Leblanc et le joual des personnages de Xavier Dolan. Pour le chroniqueur Marc Cassivi, qui a grandi dans un milieu anglophone et vécu la menace de l'assimilation, il est grand temps que l'on renvoie notre rapport souvent malsain à la langue anglaise. Le Québécois est maître chez lui, ainsi que l'avait souhaité Jean Lesage. Ce n'est pas le refrain en franglais d'une chanson des Dead Obies qui y changera quoi que ce soit. Voilà ce que vous pouvez trouver dans « Mauvaise langue » de Marc Cassivi. Oui, oui, le chroniqueur de la presse. Ça, j'espère bien le prononcer. « Revival » de Stephen King? Yes, je l'ai eu. Il a suffi de quelques jours au charismatique révérend Charles Jacobs pour ensorceler les habitants de Harlow. Nous sommes dans le Maine. Et plus que tout autre, il a ensorcelé le petit Jamie, car l'homme et l'enfant ont une passion commune, l'électricité. Et 30 ans plus tard, Jamie est devenu guitariste de rock. Il est rongé par l'alcool et la drogue. C'est devenu une épave. Jusqu'à ce qu'il croise à nouveau le chemin de Jacobs et découvre que le mot « revival » a plus d'un sens et qu'il y a bien des façons de renaître. Du Stephen King tout craché. Et puis pour finir, un titre qui s'appelle, qui nous rappelle beaucoup Jeannette Bertrand, « Les vieux ne pleurent jamais » de Céline Curiol. Judith et Jeannette ont 70 ans, elles vivent à New York depuis de nombreuses années, seules aujourd'hui, sans femme, sans mari. Ces femmes ne sont pas dévastées, elles poursuivent leur chemin tant il est vrai qu'un être demeure le même d'un bout à l'autre de son existence. Ce qui m'amène bien évidemment à vous rappeler quels sont les livres de Jeannette Bertrand que nous avons enregistrés pour vous. Il y a bien sûr « Lit double 1, 2 et 3 »,« La vieillesse par une vraie vieille »,« Ma vie en trois actes »,« Le cocon »,« Les recettes de Jeannette » et « Le bien des miens ». Voilà, Jeannette Bertrand que je remercie, mais je remercie également très très fort et très vivement Jocelyne Allary pour sa présence, Gérald Cousineau et Gérard Saint-Denis pour leur présence téléphonique. Et puis vous, je vous remercie d'être là. Faites-le savoir que cette émission existe et que nous accueillons des gens vraiment fantastiques. Merci d'avance, merci à Jean-Sébastien Laliberté et à Anne-Laure Janson. Je vous souhaite une belle semaine de lecture et je vous retrouve la semaine prochaine avec Madame Perrin.